La chronique planification financière et fiscale, une présentation de Danny Tremblay, votre planificateur financier en Outaouais. Venez rencontrer les spécialistes de l'équipe Danny Tremblay ou visitez le dannytremblay.com.
Avec notre conseiller financier, Danny Tremblay. Comment ça va, Danny?
Ça va très bien. Bonne semaine.
La semaine passée, on a fait un genre de spécial potluck. Hein?
Ouais.
J'ai lancé toutes sortes de questions à gauche et à droite. Il semblerait que les gens ont bien aimé ça.
Oui. Les gens, j'ai eu deux appels, des gens qui ont bien aimé l'échange qu'on a eu. Fait que je pensais que c'est une bonne idée peut-être de continuer.
Bon, ben parfait. Fait que j'ai plusieurs autres questions. Aujourd'hui, tu veux, entre autres, peut-être mettre la table sur certaines idées qu'on a abordées la semaine passée, entre autres quelques stratégies quand on parle, entre autres, d'investissement.
Oui, exactement. Puis qui s'adresse un petit peu à tout le monde, mais peut-être plus aux jeunes, là, mais mm-hmm. en même temps, le concept s'applique pour tout le monde, c'est le concept de commencer à épargner tôt. Puis, dans le fond, on comprend...
Tôt, tu veux dire jeune.
Tôt ou jeune, oui. Il n'est jamais trop tard, mais dans le fond, le plus tôt qu'on commence, le mieux que ce sera. Là. Puis, mm-hmm. question d'illustrer le concept, là, si on regarde un exemple, imaginons là, deux amis à l'école, là. Les deux, ils ont 20 ans, et il y en a un qui commence à épargner 2500 par année jusqu'à 30 ans. Et que là, ce placement-là, là, disons que ça fait 6 %. Fait qu'il met 2500 par année jusqu'à 30 ans. Mm-hmm. À 30 ans, il arrête, puis il laisse l'argent aller, puis ça continue de faire le 6 % en question.
OK. Fait que de 20 à 30 ans, mettons...
On épargne.
Il épargne 2500 par année.
C'est ça.
Après, à 30 ans, il touche plus, il n'en met plus.
Ouais.
Il laisse ça dans un compte de banque.
Oui. Bien, il laisse dans le placement en question, puis il laisse aller.
OK.
Versus son ami qui, lui, voit à ses affaires plus tard, commence à 31 ans, et cette personne-là épargne jusqu'à 65 ans. Donc, il épargne pendant plus d'années.
Là, pendant 34 ans, tu vas mettre beaucoup d'argent.
Ouais.
Le même montant
d'argent?
Le
même 2500 par année.
Le même 2500. Ouais. OK, cool.
Puis, les deux cas, là, ils ont fait 6 %. Connais-tu la différence? Quel tu penses qu'il va avoir le plus d'argent?
J'imagine que celui qui a contribué plus d'années va avoir plus d'argent parce qu'il va avoir mis tellement plus de capital, j'ose croire, qu'à partir de 31 ans jusqu'à 64 ans. Écoute, c'est 30, c'est 34 ans d'investissement.
Oui, mais si on le fait avec une calculatrice, c'est celui qui a commencé plus tôt qui va avoir plus d'argent. En fait, il va avoir 277 000. Celui qui a épargné pendant longtemps va avoir accumulé 277 000.
Celui qui a commencé à 31 ans.
Oui. Puis l'autre va avoir 325 000.
Ben voyons.
Fait qu'il va avoir à peu près, là, à peu près quoi, là, 50 000 à peu près
et
de
c'est
plus.
C'est bon en tabarouette, là.
Ouais.
Si vous êtes un grand-père ou un papa. Non, mais vous autres, il est trop tard, là. Non, mais je veux dire, continuez à en épargner. Vous achèterez un bicycle, vous paierez l'épicerie, un voyage quand ce sera le temps de décaisser tout ça.
Ouais.
Là. Mais vos petits-enfants, quand ils vont venir à la maison et qu'ils ont leur première job, ma fille, dans mon cas, quand elle va avoir sa première job qu'elle va vouloir placer, c'est ça que je vais y compter comme histoire. Là.
Exactement.
Je vais lui donner cet exemple-là.
Oui.
Wow.
C'est vraiment... tu sais, parce que dans le fond, on dit ça prend de l'argent pour faire de l'argent dans la vie. Hein? Puis quand que tu commences tôt, ben plus rapidement tu arrives à une certaine masse critique que tu en as de l'argent. Puis là, quand on applique le 6 % mettons dans l'exemple, ben là, ça fait des gros bons. Là. Tu sais, imaginons un exemple, là, quelqu'un qui a 1 million puis l'autre qui a 100 piastres ou 1000, ça va être plus facile. Puis les deux font un placement de, puis ça fait 10 %. Bien, celui qui avait 1 million à 10 %, il vient de faire 100 000.
Ça fait de l'argent vite, là.
Puis l'autre qui avait 1000, qui a fait 10 %, il a fait juste 100 piastres.
C'est
fait
ça.
Que, tu sais, ça avance pas vite à coût de 100 piastres. Sauf qu'à coût de 100 000, ça va vite, là.
On comprend.
Fait que quand tu commences tôt, bien, tu arrives à cet effet-là.
Un plus gros montant qui va bénéficier
plus rapidement.
Du pourcentage et de l'intérêt. Wow.
De commencer à cotiser tôt, c'est bien important. Ensuite, tantôt, en introduction, un petit peu, tu parlais des régimes enregistrés d'épargne études. Ça aussi, aux parents, aux grands-parents pour qui on veut aider, là, contribuer aux études des enfants, le régime enregistré d'épargne études, c'est super important. Puis en même temps, pas mal payant, là, parce qu'on a une subvention. Le fédéral donne 20 % de subvention, puis au provincial, 10 % La subvention s'applique sur le premier 2500 qu'on donne par année.
Je
ne
comprends pas
par
la
enfant.
Subvention. Tu donnes 2500?
Oui. Puis là, le fédéral te donne 20 %,
okay.
fait que 500 $. Mm-hmm. Puis le provincial te donne 10 %, 250.
Intéressant.
Fait que, tu sais, Toi, tu mets 2005, puis les deux gouvernements te donnent 750.
Au bout du compte, on a 3250 dans
ça.
Un compte. Ouais, OK, ouais, okay ouais. Je comprends ça.
Ça, c'est bien important. Par contre, pour les gens qui en ont ou qui voudraient en faire, là, juste s'assurer que votre institution financière demande la subvention au Québec. Parce que ce n'est pas toutes les institutions qui le demandent, le 10% en question.
C'est très intéressant. Ouais. Ça, c'est bon.
Ça, vous dites, c'est bien important. Puis la semaine passée, on parlait de RAP aussi, mm-hmm. de décaisser pendant qu'on achète une maison.
Ouais.
Bien, on n'est pas l'argent qu'on décaisse pour la RAP, on n'est pas obligé de la mettre comme mise de fonds sur notre maison. On peut, si on veut, là, mais une autre idée, c'est juste une idée, on peut sortir pendant notre RAP puis cotiser dans le fameux régime d'épargne études. Fait que, tu sais, on a cotisé dans notre REER, on a eu une déduction fiscale. On sort parce qu'on est en train d'acheter une maison,
mm-hmm.
mais supposons qu'on n'a pas besoin de l'argent. Là, tu peux la prendre puis cotiser dans ton régime d'études pour tes
là,
enfants.
Tu vas chercher
là,
la subvention.
Un autre 30%.
Ouais,
fait que,
ouais,
tu fais
ouais.
travailler l'argent de façon optimale.
Un petit moyen contourné qu'on ne sait pas toujours, mais que les bons aviseurs financiers connaissent.
Ouais.
Comme Danny Tremblay, c'est intéressant à savoir. Ouais. Maintenant, d'autres fonds hors REER.
Oui, quelqu'un qui a de l'argent non enregistré, donc pas des REER puis pas des CELI.
Mm-hmm.
Normalement, là, on sait que l'intérêt ou le rendement qu'on fait sur ces fonds-là sont imposés à chaque année. Puis, imaginons là, que je fais 5%, ben là, il faut que je le déclare le 5%, j'en paye en impôt. Fait que j'avance au niveau de mon enrichissement juste du net. Là. Si je fais 5%, ça m'en coûte 2, ben je suis en avant juste de 3. Fait que l'idée, si on fait des placements non enregistrés, c'est ça qui se passe. Mais il y a des placements qui existent, qui sont fiscalement avantageux, qui font que l'imposition est différée au moment de la vente ultime. Puis, encore une fois, l'effet de l'accumulation du capital fait que parce qu'on ne paye pas d'impôts à chaque année qu'on fait notre rendement, bien, ça va s'accumuler plus rapidement. Donc ça, c'est bien important. Les gens qui ont soit des compagnies de gestion ou des individus qui ont de l'argent qui est non enregistré, voir à ça, là, s'assurer qu'on utilise les bons produits de placement pour ne pas payer de l'impôt inutilement.
Je comprends.
Parce que
très,
sinon,
très
l'accumulation est handicapé, là, si on peut dire, est affecté.
Il nous reste à peine une minute. As-tu un petit point de planification important à porter à l'attention de nos auditeurs?
Oui, bien, aussi en début d'année, là, avec les résolutions, s'assurer de relire nos testaments, c'est bien important, ça, puis de le lire avec un... puis être critique là, face à ce qu'on lit, parce que, tu sais, il faut se poser la question, les noms qu'il y a là-dedans, sont-ils encore en vie? On lui parle-tu encore? On lui fait-tu confiance? Sont-ils corrects?
Ouais,
c'est ça qu'on veut?
Mm-hmm.
Puis, d'aligner nos volontés. Puis ce que je veux dire par ça, c'est un exemple, là, c'est un client avec qui j'ai travaillé l'année passée. Quand j'ai lu son testament, lui dans sa tête, là, dans son testament, il voulait donner sa compagnie à un enfant. Dans la compagnie, il y avait des biens, puis il y avait aussi un contrat d'assurance vie. Puis sa fille, son autre enfant, il voulait donner un portefeuille de placement. Puis quand il avait fait son testament, son analyse, dans sa tête, ça valait la même affaire, fait qu'il se disait... c'est égal mes choses. Sauf que ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que la compagnie qui donnait à son gars, elle détenait une assurance vie sur sa vie à lui. Fait qu'à son décès, il y avait 1 million de plus qui rentrait dans la compagnie.
Oui,
fait que finalement, c'était déséquilibré. Là.
Oui, oui, oui.
Fait qu'en lisant le testament, j'ai dit, ben
c'est sûr de ça, là.
C'est ça que tu veux. Là.
Mm-hmm.
Fait que l'idée de relire notre testament, c'est vraiment important pour s'assurer que nos volontés sont alignées, synchronisées avec nos volontés.
Très, très intéressant. Danny, s'il y a des gens qui ont des questions, on peut te rejoindre comment?
Oui, au bureau, 819-243-6497 ou site Internet, là, au dannytremblay.com.
Danny Tremblay, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine sans faute.
Plaisir.